Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi après-midi à 15h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique. Un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel pour les jours à venir. Dans l'actualité culturelle, la map du bassin minier nous signale un film documentaire pour celles et ceux qui sont soucieux de leur alimentation. Il s'agit de Sugarland, réalisé par un Australien, à propos des méfaits du sucre dans notre alimentation. Il passe actuellement et jusqu'au 20 mars au cinéma Les Étoiles de Bruay-la-Buissière. La map du bassin minier propose par ailleurs un déplacement collectif au départ de Angres pour aller voir ce film documentaire. Pour en savoir plus sur ce départ collectif, l'adresse est contact@amap.bassinminier62.org. contact@amap.bassinminier62.org. Pour connaître les horaires de diffusion de ce film, Sugarland, rendez-vous sur le site du cinéma Les Étoiles. Il passe du mercredi 7 mars au mardi 20 mars. Nous voilà en route pour la troisième édition du festival Les Ustopistes Debout sur le bassin minier du Pas-de-Calais. Troisième édition marquée par un passage d'étape remarquable puisque la ville de Avion, initiatrice du festival, ne sera plus seule à le porter. D'autres collectivités territoriales comme les villes de Méricourt, de Salomine, de Mazingarbe et de Carvin, des associations et structures engagées dans la bataille culturelle au quotidien comme Colère du Présent, connue pour porter le Salon du Livre et de la Critique Sociale le 1er mai à Arras, ou encore Attaque Artois et le Lac de Liévin, rejoignent ce festival pour qu'il devienne un véritable temps fort sur un large territoire. L'objectif est clairement de transformer la colère noire qui gangrène nos quartiers en colère saine et constructive. C'est la culture qui hisse le drapeau pour élever les consciences, qui refuse le silence face aux dérives et dangers liés à un système global qui nous place tous dans une logique de guerre permanente. Le smicard contre le RMiste, le salarié du privé contre le fonctionnaire, l'athée contre le croyant. Pendant ce temps-là, une classe puissante et organisée accumule dans une indifférence presque totale. Durant tout un mois, vous pourrez donc profiter de nombreux rendez-vous. Durant tout un mois, Le théâtre, la création seront impertinents, subversifs, volontairement gesticulants. Vous y serez attendus nombreuses et nombreux, convaincus que la culture est une arme capable de bousculer le monde, ses conservatismes, ses haines, ses égoïsmes, ses errances. Dans le cadre du festival Les Utopistes Debout, mardi 13 mars à 10h et à 14h, une pièce de théâtre « Pourquoi les riches ?» par la compagnie Vaguement Compétitif. C'est à Salomines, mardi 13 mars, 10h et 14h, pour un public à partir de 10 ans. La durée est de 1 heure et un tarif spécifique pour les scolaires est prévu à 4 € la place. Cette pièce de théâtre aborde l'histoire de Republica, une super-héroïne. Sa mission est d'œuvrer pour la justice sociale. Pourtant, rien ne semble vouloir aplanir la pyramide sociale. On dirait au contraire que sa base s'éloigne du sommet et s'enfonce inéluctablement. Republica n'aurait-elle pas abandonné une partie de ses enfants ? Quand l'un d'eux l'interpelle et l'accuse de ne plus faire le job, Republica dénie et se rebiffe. Mais la colère gronde. Republica est bien obligée de tendre l'oreille et de dialoguer. Finira-t-elle par reconnaître ses erreurs ? Retrouvera-t-elle le sens plein des mots « liberté, égalité, fraternité » ? C'est donc « Pourquoi les riches ?» le mardi 13 mars à 10h et à 14h à la MAC de Salomines pour un public à partir de 10 ans. Toujours dans le cadre « Les Utopistes debout » et à la MAC de Salomines, le vendredi 16 mars, une pièce de théâtre « La grande saga de la France-Afrique » par la compagnie 3 points de suspension. Une séance à 14h pour les scolaires et à 20h30 tout public à partir de 12 ans. Cette pièce de théâtre nous raconte, à l'aube des indépendances, le maléfique Jacques Foccart, futur empereur des affaires africaines, découvre le livre du mal qui lui dévoile comment permettre à la France de garder la mainmise sur les richesses de l'Afrique. Ce one-man show documentaire porté par Jérôme Colou propose avec une parole décapante d'éclairer les chemins obscurs de la France-Afrique et de dresser le portrait acerbe de ses principaux protagonistes. Une joyeuse leçon d'histoire au vitriol de 1958 à nos jours. Une fable satirique à l'humour ravageur qui pointe les échecs de la décolonisation et les mirages de la libre circulation des hommes dans une Europe au racisme tenace et aux frontières angoissées. C'est donc la grande saga de la France-Afrique, vendredi 16 mars, 14h et 20h30, à la MAC de Salomines. Toujours dans le cadre du festival Les Utopistes Debout, mais à Avion cette fois, c'est Franck Lepage qui est invité le 16 mars à 19h pour son deuxième spectacle, Inculture 2 et si on empêchait les riches de s'instruire plus vite que les pauvres, une autre histoire de l'éducation. Franck Lepage démarre ainsi, « Je me suis mis au parapente parce que j'ai raté mon ascension sociale ». C'est le second volet d'une saga consacrée à l'éducation, à la culture avec un grand C, aux inégalités sociales et aux parapentes donc, qui sert à Lepage, seul sur scène, de fil conducteur allégorique. Quels sont les fondamentaux de l'éducation nationale ? À quoi sert-elle ? Y a-t-il eu des alternatives ? Quelles perspectives pour l'éducation nationale ? Après Inculture 1 qui décortiquait le mensonge qu'est ce concept gouvernemental de culture, Franck Lepage met en perspective le système d'éducation en France, partant des projets d'éducation émis suite à la révolution de 1792. Il nous montre combien l'éducation nationale comporte en elle les conditions de la reproduction des inégalités sociales et combien il est plus que nécessaire de mettre son nez dans les évolutions à venir. Ce petit conte politique est matière à réflexion, couplé à de bons moments de rigolade. C'est salle Louis Aragon à l'espace culturel Jean Ferrat à Avion le vendredi 16 mars à 19h. Du 12 au 20 mars, les femmes sont à l'honneur au Ciné Movida à Arras. des projections et des rencontres organisées en partenariat avec le docteur André Potvin et le CIDFF d'Arras. Il y a donc 6 films qui ont été retenus dans ce cadre-là. Sonita de Roxare Gaem Maghami. Sonita, adolescente afghane réfugiée en Iran, brave les interdits pour se lancer dans une carrière de rappeuse militante. Elle dénonce le mariage forcé qui la menace dans un clip formidable d'une énergie déchirante. Il s'agit d'un beau portrait primé au festival de Sundance. C'est donc le lundi 12 mars à 20h, suivi d'un débat. Il y aura d'autres projections le jeudi 15 et le samedi 17. Deuxième film, La Belle et la Meute de Kauter Ben Hania. Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence pour elle une longue nuit d'errance, durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. C'est donc le mardi 13 mars à 14h30, suivi d'un débat. D'autres séances prévues le mercredi 14 et le lundi 19. Troisième film, « Oh Lucie » de Atsuko Hirayanagi. Setsuko mène une vie solitaire et sans saveur à Tokyo entre son travail et son appartement, jusqu'à ce que sa nièce Mika la persuade de prendre sa place à des cours d'anglais très singuliers. C'est une délicieuse comédie douce-amère. C'est le jeudi 15 mars à 21h, reprojection le samedi 17 et le dimanche 18. Puis, quatrième film, La fiancée du désert de Cecilia Attan et Valeria Pivato. Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la même famille jusqu'au jour où elle est contrainte d'accepter une place loin de Buenos Aires. Elle entame alors un voyage à travers l'immensité du désert argentin et ce qui semblait être le bout du chemin va s'avérer le début d'une nouvelle vie. Un beau portrait de femme. C'est le mardi 13 mars à 18h, d'autres projections le vendredi 16 et le dimanche 18. Puis, cinquième film, Cathy Says Goodbye. Cathy, jeune femme du sud-ouest américain, rêve d'une nouvelle vie à San Francisco. Elle vit ses premiers amours et se révèle d'une honnêteté désarmante. Son empathie compulsive envers les autres fait d'elle une proie facile. Sa ténacité et sa jeunesse seront mises à l'épreuve par ceux qu'elle aime le plus au monde. C'est un subtil portrait de femme. C'est donc une projection en avant-première le lundi 19 mars à 21h. Dernier film enfin, Emily Dickinson de Terence Davies. La Nouvelle-Angleterre au XXe siècle. Une jeune femme rebelle, Emily Dickinson, lutte pour son émancipation dans une société rigide et bigote. Ignorée de son vivant, elle est aujourd'hui reconnue comme la plus grande poétesse américaine. Un film subtil et sensible d'une grande élégance. C'est donc dans le cadre des séances de ciné-littérature, mardi 20 mars à 20h, organisé par Plan Séquence. À l'Escapade à Hénin-Beaumont, maintenant, le vendredi 16 mars 20h, dans le cadre du mois de mars consacré aux femmes, c'est du théâtre avec la pièce « Tout reste à faire » par la compagnie In Extremis. Un soir d'hiver, une femme perd son courage comme on perd ses clés. C'est l'histoire de Marie-Claire, ce pourrait être la vôtre. Ou la mienne. Une histoire de fin de courage qui interroge le courage. Une histoire de souffrance au travail qui interroge le travail. Une histoire sur l'individu et le collectif. Une histoire de dignité. Avec humour et poésie, en peinture et musique, une femme se remet debout et pousse les murs de sa vie. C'est donc que tout reste à faire à l'Escapade à Hénin, le vendredi 16 mars à 20h. Le vendredi 16 mars toujours, mais au lac de Liévin, le bassin minier à l'épreuve de la photographie. Il s'agit d'une soirée avec Didier Vivien, photographe documentaire, autour de son livre « La vie sur Terre ». Le photographe a composé en près de 40 ans d'investigation un livre documentaire exceptionnel autour du charbon et de l'histoire du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Il a commencé son incroyable engagement photographique dans les années 80, au moment de la fermeture des derniers puits, poursuivant ensuite son exploration sur les mutations du paysage issues de la fin de cette industrie. C'est au LAG, vendredi 16 mars à 19h. La soirée sera l'occasion d'aborder avec Didier Vivien différents aspects, les métamorphoses du capitalisme, dans le bassin minier, l'exploitation de l'homme continue sous d'autres formes, plus sophistiquées, le bassin minier, territoire parodique des mutations du capitalisme. C'est le capitalisme qui a inventé la photographie pour en faire un formidable moyen d'abrutissement pour la publicité, la presse people. Quelle photographie mettre en œuvre qui ne prive pas la pensée de ses moyens de liberté? Quelle photographie de style documentaire non assujettie? Où en est donc la photographie de type documentaire? Quel est le rôle des images dans la vision du monde? En quoi les photographes, les artistes en général, peuvent aider les gens à mieux vivre? Autant de sujets qu'il sera possible d'aborder à l'occasion de cette rencontre avec Didier Vivien, le vendredi 16 mars à 19h, au LAG de Liévin, 23 avenue Jean Jaurès. Au LAG, toujours le samedi 17 mars à 20h30, c'est un concert que nous sommes conviés, un concert suite filibuster. Benjamin, François, Marianne et Stéphane vous invitent à embarquer sur le Sweet Filibuster, larguer les amarres pour une traversée rock'n'roll en anglais et en français. Sweet Filibuster, c'est quatre corsaires du rock qui abordent de leurs trois mâts des reprises de classiques rock et pop. Clapton, Joe Ramones, Luke, Whitesnake, Téléphone, Hubert Félix Thiéphen. Entraînés par une batterie énergique, deux guitares de génie et une basse qui en impose, ils vous feront revivre les plus belles escales de vos jeunes années. À l'abordage, c'est donc le samedi 17 mars, 20h30, au LAG de Liévin, 23 avenue Jean Jaurès. Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Robert Roost. Portant un nom chargé d'histoire pour Ellensburg, État de Washington, la ville d'origine de son membre fondateur Mark Pachen, Robert Roost sillonne les routes depuis 2013 avec son Swing Time Rag Punk, épuisant au passage quelques bassistes. En décembre dernier, le groupe a sorti un album incisif et énergique dont les 9 titres s'enchaînent à un rythme effréné, incitant fortement à renouveler l'écoute à multiples reprises. Nous écoutons sans attendre le premier morceau de cet album. Il s'intitule Ain't Nobody.
Ain't nobody gonna bring me down. Ain't nobody but me. Ain't nobody gonna rule my town. Ain't nobody but me. So would I doubt myself, or aim to prove me wrong. So when I'm feeling blue, I'm ringing out into a song. Ain't nobody gonna prove me wrong. Ain't nobody but me. So many people trying to bring you down. Go ahead and be you. So many people trying to make you frown. Go ahead and be you. So if you feel like your life is but a mess, ain't nobody gonna prove me wrong. Ain't nobody but me. Na 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 na. Why you tell me how to live my life? I'll go do what I do. Why you make me walk the edge of a knife? I'll go do what I do. So if you feel like is but a mess, just know you're the only one to put that to the test. Ain't nobody gonna prove me wrong. Ain't nobody but me. Sour no guilt and all the wrong that I've done. Showing me how to be, living life and always jumping the gun. Showing me how to be. So when I doubt myself, I aim to prove me wrong. So when I'm feeling blue, I'm ringing out into a song. Ain't nobody gonna prove me wrong. Ain't nobody but me. Ain't nobody gonna bring me down. Ain't nobody but
Nous diffusons maintenant un reportage lié à l'actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. En fait, nous n'allons pas revenir sur l'actualité de la semaine écoulée. C'était en effet une semaine de congé et nous n'avons pas beaucoup de retours en matière d'actualité. C'est pourquoi je préfère vous faire une chouette annonce concernant le tout prochain festival Bobine Rebelle, organisé au LAG les 13 et 14 avril prochains. Bobine Rebelle, c'est un festival de films documentaires, d'auteurs, social et politique, avec une particularité, les projections se déroulent en présence des réalisatrices et réalisateurs de chaque film, ce qui donne toujours lieu à de très riches échanges entre les spectatrices, spectateurs, réalisatrices et réalisateurs. Cette année, en 2018, c'est la 6e édition de Bobine Rebelle. Autant dire que c'est maintenant un festival qui est bien installé dans le paysage. Revenons tout d'abord sur ce qu'est Bobine Rebelle. Nous avons dit festival de films documentaires, d'auteurs, social et politique. Festival tout d'abord. En programmant pendant un week-end une série de films documentaires, le LAG veut proposer un moment fort permettant de créer une véritable dynamique de réflexion. Documentaire ensuite. En revendiquant un point de vue clairement affirmé, le documentaire permet de faire apparaître une réalité qui, d'habitude, nous est cachée. Il favorise une démarche critique et l'émergence d'une conscience politique plus engagée. D'auteur. Le documentaire d'auteur est un prisme particulier permettant de nourrir une réflexion collective. Ce cinéma laisse une large place au spectateur dans l'élaboration d'une pensée, à l'inverse d'un reportage télévisuel où le cerveau du spectateur est pris dans l'étau des évidences et autres lieux communs. Social et politique, enfin. À l'heure où les tenants du pouvoir imposent une pensée unique, associée à une fausse bipolarisation politique, il s'agit de partager nos interrogations, confronter nos dissidences. Indépendance politique et autonomie de pensée sont aujourd'hui une exigence sociale. Voilà, au-delà de ces quelques définitions, qui finalement éclairent bien ce qu'est Bobine Rebelle, examinons ensemble la programmation 2018. Le 6e festival Bobine Rebelle se tient donc le vendredi 13 avril pour la soirée d'ouverture et le samedi 14 avril au LAG, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Au total, 5 films nous sont proposés, avec à chaque fois, rappelons-le, la présence du réalisateur ou de la réalisatrice. Cette année, Bobine Rebelle accueille 4 réalisatrices et 1 réalisateur. Le film d'ouverture sera donc vendredi 13 avril à 20h30 au LAG. C'est un film documentaire de Régine Abadia, « Entre deux sexes ». Le synopsis nous indique « Pour beaucoup, le monde se partage entre hommes et femmes. » Quid des personnes intersexes qui n'entrent dans aucune de ces catégories. Ce sera donc le vendredi 13 avril à 20h30 au LAG, en présence de la réalisatrice Régine Abadia. Venons-en maintenant à la programmation du samedi 14 avril. 4 films documentaires nous sont proposés. À 11h, un film de Vinciane Zec qui sera donc également présent. Il s'agit de « Quartier libre ». Le synopsis nous dit « À la baraque, quartier autogéré fait de roulottes, cabanes et autres maisons autoconstruites, chaque jour est un jour à inventer collectivement. En 2014, ce projet de vie alternative est bousculé par la construction d'un parking de plus de 3000 places. Comment le quartier va-t-il survivre à cela ? Vers midi, une coupure est prévue et une petite restauration sur place est possible. Reprise l'après-midi à 14h pour le film Les Entonnoirs en présence de la réalisatrice Marine Place. Les Entonnoirs, Z'entonnoir au pluriel. Le synopsis nous dit « Êtes-vous prêt à changer votre regard sur la maladie mentale ?» À Roubaix, dans les locaux de la manufacture culturelle La Condition Publique, une émission de radio riche, drôle, libre et unique en son genre est enregistrée tous les lundis depuis 8 ans, Les Entonnoirs. Le film suivant, à 16h, s'intitule Les Chants de la Maladrerie. La projection est prévue en présence de la réalisatrice Flavie Pinatel. Le synopsis nous dit « Le portrait d'une cité aux formes étonnantes, la maladrerie d'Aubervilliers, et de ses habitantes et habitants. Un documentaire d'un genre particulier, puisque les personnes s'y expriment non pas en parlant, mais à travers des chansons. En filigrane, le film dresse un état des lieux poétique du vivre ensemble en France en 2016. » Puis, à 17h30, ce sera le film de clôture. Comme souvent à Bobine Rebelle, il s'agit d'un film au caractère social très marqué. Ce sera Brix de Quentin Ravelli, qui sera lui aussi présent pour échanger après la projection. Des carrières d'argile abandonnées au crédit immobilier impayé, les briques espagnoles incarnent le triomphe puis la faillite économique d'un pays. Suivre le parcours d'une marchandise, en l'occurrence les briques, donne un visage à la crise et dessine les stratégies individuelles ou collectives qui permettent de la surmonter. Voilà, on peut en convenir, ce 6e Bobine Rebelle au Lac nous propose une programmation riche et diversifiée. Rappelons que l'entrée au festival est à prix libre et permet donc à chacune et chacun de participer et de suivre le festival. On peut venir pour toute la durée et assister à la projection des 5 films. On peut également venir pour un seul film, ou 2, ou 3, ou 4. Rappelons enfin que, comme chaque année, le festival se termine le samedi 14 avril à 20h par le fameux repas de clôture Babine Rebelle, en présence des réalisateurs et réalisatrices. Ce repas est également à prix libre, mais pour des questions d'organisation, l'inscription est impérative sur le site du LAG, lelag.fr. Toujours sur le site du LAG, lelag.fr, il est possible de proposer ou de demander un covoiturage. Micro Rebelle aura bien entendu l'occasion de revenir sur ce 6e festival Bobine Rebelle, organisé au LAG le vendredi 13 avril en soirée et le samedi 14 avril à partir de 11h. Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Damiano Baldoni et son album Lost Dynasty. Cet album commence par une très belle composition introduite à la guitare. Damiano Baldoni n'en est pas à son premier coup d'essai. C'est un deuxième opus qu'il nous propose. Certains morceaux sont inspirés par la musique celtique comme Celtic Warrior. On retrouve aussi une atmosphère méditative, notamment dans un Helio Contro Atlante, introduit par une voix venue des profondeurs, rappelant Lisa Gerrard, la chanteuse du groupe Did Can Dance. C'est justement Helio Contro que nous écoutons maintenant. Thank you. C'est maintenant l'heure de notre reportage sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Tous les reportages de Microrebelle peuvent être podcastés et téléchargés dans leur intégralité sur notre site micro-rebelle.fr, micro et rebelle au pluriel. Nous en diffusons aujourd'hui un extrait dans ce Microrebelle hebdo sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Si cet extrait vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter l'intégralité du reportage sur le site de notre web radio. Pour cet extrait, nous vous proposons de revenir sur notre cycle radiophonique consacré à l'agriculture paysanne. Microrebelle a déjà diffusé les deux premières parties de ce cycle. Vous pouvez les retrouver en intégralité sur micro-rebelle.fr à la rubrique « Reportage ». Voici donc la troisième partie de ce cycle. On y retrouve Jean-Luc Malpeau, paysan en retraite, qui s'est engagé toute sa vie dans la défense et la promotion de l'agriculture paysanne. Et il a contribué à la mise en œuvre du réseau régional des organisations qui s'inscrivent dans cette sensibilité. La Confédération paysanne, Avenir 59-62, le CEDAPA, Terre de Liens, etc. Cet échange exceptionnel est l'occasion de revenir sur l'histoire de l'agriculture paysanne en région, ainsi que sur les enjeux auxquels elle est confrontée aujourd'hui. Par ailleurs, pour éclairer la réalité de l'agriculture paysanne aujourd'hui, ces trois émissions donnent également la parole à des porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur des petites fermes, à des paysans nouvellement installés, ainsi qu'à des paysans qui viennent juste de partir en retraite. Dans ce troisième volet, ce sont Olivier et Karine que nous écouterons. En voici donc quelques extraits.
Je disais tout à l'heure que j'ai commencé en 64, donc j'ai lu des bouquins à ce moment-là. Il y avait beaucoup d'écrits sur l'agriculture puisqu'il fallait changer. Et tous les écrits, les articles qui traitaient de la question agricole commençaient par un couplet sur Jules Méline. Alors Jules Méline n'est plus très connu. C'était le ministre de l'agriculture de Jules Ferry en 1886-87. Début de la République, la Troisième République. Hein. Et on lui reproche, bon, pour des raisons politiques que je ne vais pas expliquer ici, mais enfin d'avoir mis en place un protectionnisme agricole. Et donc, à cause de Jules Méline, on avait permis à la paysannerie de rester traditionnelle jusqu'à la guerre 40, et donc d'être responsable de la situation dans laquelle on était après la guerre, d'avoir une agriculture archaïque qui ne produisait pas assez pour nourrir la population. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il fallait vraiment changer. Et Méline était coupable de tout, quoi. Bon, j'ai pas envie de défendre Méline non plus, mais c'était quand même un conservateur bon teint. Mais c'était le fait d'avoir maintenu une paysannerie trop traditionnelle. Même si elle avait évolué entre les deux guerres et même un peu avant, on avait remplacé la faux par une moissonneuse lieuse, par exemple. On avait des batteuses en grange. Il y avait quand même une modernisation, mais pas assez vite. Il y avait encore trop de paysans, en fait, qui travaillaient pour se nourrir, simplement. C'était ça, en fait, le problème. C'est que des gens, après la guerre, il y avait encore des gens qui cultivaient leur terrain essentiellement pour leurs besoins. Ça va pas, ça. Ouais. Ça va pas parce qu'ils ne
produisent, du marché.
Ils produisent pas pour le marché. En plus, ils n'achètent rien sur le marché, donc ils servent à rien.
Ouais.
Et à partir du moment où on a ce raisonnement-là, effectivement, il y a plein de choses qui n'ont plus de sens dans une société paysanne. Toute la gratuité de l'échange,
l'entraide.
Tout ce qui n'est pas monétarisé. Or, dans une société paysanne, beaucoup de choses n'étaient pas monétarisées, mais tout ce qui n'est pas monétarisé n'a plus d'intérêt. Mais après la guerre, oui, là, c'était vraiment clair. Hein. La guerre 40. Hein.
Une dernière question. Tu évoques un petit peu les différentes tensions qu'il y a pu y avoir, ou les évolutions, ou les rapprochements. Le monde paysan et le monde ouvrier, comment est-ce que tu appréhende cette... C'est je t'aime moi non plus, c'est... en même temps, il y a eu les paysans travailleurs, il y a sans doute plein de choses très, très diverses aussi.
Oui, alors c'est assez compliqué, hein, parce qu'il y a eu toute une... à partir de... Alors certains font remonter ça à Napoléon III, mais là je ne sais pas si c'est aussi clair que ça. Mais en tout cas, à partir de la fin du 19e siècle, une volonté politique, aussi bien des conservateurs que des républicains, de mettre une distance entre les deux. On disait qu'un paysan ne peut pas avoir la même mentalité qu'un ouvrier et les mêmes intérêts. Un paysan, c'est quelqu'un qui veut avoir de la terre. Un ouvrier ne cherche pas à avoir de la terre, par exemple. Donc c'est fondamentalement, c'est différent. Même un ouvrier agricole a toujours le rêve d'avoir de la terre. C'est un républicain qui disait ça, un intellectuel, un économiste. Alors qu'un ouvrier d'usine, ben non, donc il y a une barrière même entre un ouvrier agricole et un ouvrier d'usine. Il fallait vraiment séparer les deux mondes. Alors on trouvait des arguments, hein, des arguments, on peut toujours en trouver ou en inventer. Mais l'objectif, c'était surtout que la paysannerie, qui à la fin du 19e siècle représentait 50% de la population, en tout cas électoralement, ben, il ne fallait pas qu'elle se laisse corrompre par les idées socialistes qui étaient en vogue chez les ouvriers. Et donc il ne fallait pas, quand je dis corrompre, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Hein, et donc, mais c'était quand même dit dans ces termes-là. Hein.
Ouais.
Il fallait expliquer aux paysans que les ouvriers sont des gens dangereux parce que s'ils se réfèrent au socialisme, c'est des gens qui vont vouloir partager le bout de terrain que vous avez eu tant de mal à acquérir avec la sueur de votre front, de votre bras, enfin bon, et etc. Enfin, les partageux, c'est pas, c'est quand même connu. On fait peur avec. Et puis, les ouvriers, c'est la lutte des classes. Enfin, le courant socialiste, c'est la lutte des classes, et la lutte des classes, c'est vachement dangereux, parce que bon, c'est violent, ça peut être violent, et puis on n'est plus dans notre bonne petite société paysanne où on s'entend bien, soi-disant, enfin, etc. Je veux dire qu'il y a eu un tas de... Et on a hyper valorisé, alors surtout les conservateurs, mais même les républicains. Hein. L'enjeu pour Gambetta, par exemple, au début de la Troisième République, il n'était pas du tout assuré. Hein. La Troisième République, il y avait encore une majorité de royalistes. C'était de dire comment je fais pour que les paysans votent pour la République, alors qu'ils sont plutôt encadrés par les cléricaux et les monarchistes. Et donc on a développé toute une valorisation, un mythe paysan. Le paysan, c'est celui qui travaille beaucoup, qui travaille pour sa famille, donc il y a la valeur de la famille, la valeur du travail, et qui travaille pour un patrimoine qui est finalement la richesse du pays. Travaille pour sa terre, mais si on met toutes les terres bout à bout, ça fait une patrie. Mmh. Donc travail, famille, patrimoine. Ça, c'était, enfin, c'est comme ça que je résume les valeurs qui étaient mises en avant. Je pense qu'il y en a qui le disent, que les ouvriers, c'est pas du tout ça, quoi. Ouais. Ouvriers, le travail, ben non, même à un moment, ils voulaient plus travailler que 40 heures, donc on peut pas dire que la valeur travail soit importante pour eux. Enfin, je veux dire, des discours comme ça, on en a entendu plein, hein. La famille, ils travaillent pas en famille, l'ouvrier, ou rarement, et donc la famille n'est pas au centre de leur activité. Puis le patrimoine, ben non.
Et donc c'était une manière, effectivement, d'opposer un petit peu...
Oui, bien sûr, il fallait opposer, il fallait faire en sorte que ces gens-là n'avaient rien à voir. Alors, dans la pratique, ça s'est pas passé vraiment comme ça, il y a des endroits où les gens étaient très proches et se mariaient les uns avec les autres, mais politiquement, ça jouait.
Et puis, la plupart des ouvriers, en tout cas, à cette époque-là, avaient des racines paysannes.
Bien sûr, ben, la plupart des ouvriers avaient au moins des grands-parents paysans, si ce n'est des parents, hein. Puisque tous les paysans qui partaient étaient devenus ouvriers, enfin, pour la grande majorité.
Voire même, par exemple, ici, dans le bassin minier, il y avait même des difficultés pour les compagnies minières de faire rentrer les mineurs le lundi, parce qu'ils retournaient dans leur famille pour travailler à la ferme.
Donc c'était complètement artificiel, mais c'est pour des raisons politiques. Et à partir de là, on invente des mythes, ça sert à ça, en fait.
Ouais, bien sûr. Et puis à propos de lutte des classes, le fait de... que les paysans ne seraient pas... seraient choqués par la lutte des classes. Faut pas non plus oublier que les paysans ont eux-mêmes une tradition de lutte très, très ancienne contre les seigneuries, les jacqueries. Il y a aussi ces...
Ah bah oui, mais... Oui, que ce soit au 13e, 15e, et puis la Révolution aussi. Hein.
Bien sûr.
On dit que la Révolution de 1789 s'est faite à Paris par les ouvriers et une partie des bourgeois. Mais dans les campagnes, la féodalité, c'est les paysans qui l'ont abolie. Hein. Les châteaux qui ont brûlé, etc. Malheureusement, les bourgeois de Paris n'ont pas toujours compris pourquoi les paysans faisaient ça, mais bon.
Très bien, ben écoute, on va s'acheminer vers la fin de cette émission. On a eu de longs échanges hein, qui, moi, à titre personnel, m'ont complètement enrichi. J'espère que pour nos auditrices et nos auditeurs, il en est de même. J'avais envie peut-être, Jean-Luc, de te donner la parole peut-être plus à titre personnel hein, maintenant. Je sais que tu es investi dans un projet de réalisation vidéo J'aimerais bien que tu, si tu es d'accord, que tu nous le fasses partager, y compris que tu as besoin de solliciter des gens pour des moyens financiers. Je pense que c'est un projet qui en vaut la peine. Je te laisse en dire quelques mots.
Oui, donc c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans avec 2 personnes qui ont travaillé à venir avant et qui ont quitté la région maintenant, qui s'appelle... donc c'est le projet, c'est de réaliser un web documentaire qui s'appelle « Vous avez dit paysan ou paysanne ». Pourquoi on s'est attelé à ce travail-là? C'est qu'on se disait que, déjà, de par nos activités associatives, on rencontrait un certain nombre de gens qui voulaient devenir paysans. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils mettent derrière? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est bien réfléchi? Est-ce qu'ils savent vraiment pourquoi ils veulent devenir paysans plutôt qu'agriculteurs ou plutôt que producteurs de salades? Bon, c'est une question. Ensuite, on se rend compte que, autant le terme paysan a été servé, était très péjoratif, hein, et était utilisé pour mépriser une catégorie, autant, de plus en plus, on lui donne un côté très positif. C'est-à-dire l'homme qui est en lien avec la nature, qui est en lien, qui respecte les équilibres, etc. Et du fait qu'il est devenu positif, bah, il est récupéré par plein de gens. Et maintenant, qu'on soit dans n'importe quel syndicat ou quel courant, et même encore plus dans les courants très conservateurs, on utilise le mot paysan. Pour dire quoi? C'est pareil. Donc on a voulu faire ce web documentaire pour montrer d'où venait ce terme-là, comment il avait été utilisé au fur et à mesure de l'histoire, hein, enfin, donc depuis la Révolution, et puis quels sont les enjeux derrière, quels sont les enjeux de l'utilisation de ce terme. Donc voilà, donc c'est un web documentaire qui demande le travail d'une personne qui est graphiste pendant au moins 8 mois, hein, ou peut-être 1 an, je ne sais pas, mais et donc qu'il faut payer. Donc on a fait un appel de financement participatif qui est terminé, mais qui n'est pas arrivé au niveau où on pensait le faire. On pensait l'atteindre, on pensait atteindre 8 000 euros et on est arrivé à 4 500.
Donc on peut continuer à contribuer. Alors.
Donc on peut continuer à contribuer, mais plus par le financement participatif, mais en soutenant directement l'association qui porte ce projet-là, qui s'appelle le Mouton Zébré.
Alors, si je veux soutenir, j'envoie un chèque.
Au Mouton Zébré.
Au Mouton Zébré. Alors, tu as une adresse à nous donner ou...
Je ne l'ai pas sous la main.
Bon, ben, on la communiquera ultérieurement. Le Mouton Zébré.
C'est à Château-Chinon, mais alors le nom de la rue.
Bon, on va retrouver ça et puis l'expliciter. Ouais. Donc, on envoie un chèque au Mouton Zébré, à l'ordre du Mouton Zébré.
Oui.
Et le projet pourrait démarrer quand?
Bah, il pourrait démarrer à l'automne, en septembre, je pense, j'espère.
D'accord. Très bien.
Il y a encore les formalités pour l'emploi, enfin, bon, il y a quelques formalités comme ça, mais qui ne devraient pas prendre des
mois. D'accord. Très bien. Eh bien, Jean-Luc, merci pour ce long entretien, hein, qui était vraiment extrêmement passionnant. Donc, on est toujours sur Micro Rebelle, et puis on va essayer maintenant d'avoir d'autres émissions, peut-être pour approfondir ces différentes thématiques-là. En tout cas, là, on a au moins une bonne base de départ. Merci, à très bientôt.
Eh bien, cette série d'émissions touche maintenant à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Concernant ce que vient d'évoquer Jean-Luc, je vous communique l'adresse à laquelle vous pouvez faire parvenir vos chèques pour contribuer au webdoc. Vous avez dit paysan, paysanne. Les chèques sont à libeller à l'ordre du Mouton Zébré et à envoyer à l'adresse suivante. Le Mouton Zévré, 7 rue Jean-Marie Thévenin, 58-120 Château-Chinon. Avant de nous quitter, je vous propose un dernier témoignage. Pour la première émission, nous avions commencé par le témoignage de Justine, jeune paysanne. Eh bien, nous allons de même terminer cette série par un autre témoignage de jeune paysanne, celui de Karine. Bonne continuation à toutes et à tous et à très bientôt sur Micro Rebelle.
Bonjour, je m'appelle Karine, je suis en voie d'être paysan. Je suis en train de m'installer avec mon compagnon dans le début de la Vénois en maraîchage biologique et production de plantes aromatiques et médicinales. C'est une reconversion, avant j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'édition. et j'habitais à Paris. Voilà. Et par ailleurs, je suis bénévole et administratrice d'une association qui s'occupe de d'accompagner les gens, dans mon cas en fait, qui sont qui veulent s'installer en agriculture mais qui ne sont pas issus du monde paysan et qui ont des projets d'installation un petit peu atypiques par rapport au monde agricole traditionnel.
Très bien, alors comment s'appelle cette association ?
Elle s'appelle Avenir 5962.
Tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est ? Ça concerne qui ? Qu'est-ce que c'est que ces projets dont tu nous parles ? Le tien notamment, puis d'autres, dont s'occupe Avenir ?
Donc c'est une association qui a été créée pour donc soutenir les projets d'installation en agriculture paysanne. Et donc les projets dits atypiques, enfin c'est la vision de la chambre d'agriculture en fait. Donc atypique, il faut savoir que le maraîchage est déjà considéré comme atypique, même s'il l'est sans doute de moins en moins et que les institutions commencent à mieux connaître. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un système de ferme polyculture-élevage à grande échelle avec des recherches de profit. Enfin, voilà. C'est vraiment une agriculture paysanne plus à taille humaine avec une volonté un peu de progrès. De progrès social, enfin de d'épanouissement individuel aussi, enfin voilà, des recherches en fait, les beaucoup de porteurs de projets qui vont dans cette direction recherchent aussi un meilleur équilibre de vie. Souvent ils ont quitté des boulots un peu qui étaient bien payés, mais où la part humaine était beaucoup moins importante.
Ce qui est ton cas typiquement? Tu disais que tu viens de l'édition.
Un petit peu. Oui, moi, j'étais pas dans un cas extrême. C'était mon boulot, était pas si mal. C'est juste que moi, j'en avais marre de la ville. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. C'est vrai que la structure entreprise me convenait à moitié aussi. Mais j'étais pas non plus dans le pire des cas. Mais oui, j'avais un désir de retourner plutôt à la campagne. Au départ, je pensais même bosser à distance. Et puis finalement, le défi de créer son activité et d'être un petit peu autonome. M'a tenté, quoi.
L'a emporté.
Voilà.
Alors justement, donc je suis jeune, ce que je fais dans mon boulot me plaît pas, j'envisage de faire du maraîchage, donc qu'est-ce qui se passe? Je vais voir Avenir, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que va faire Avenir pour moi?
Avenir, dans un premier temps, va... Tout dépend, enfin si c'est vraiment juste une idée qui me passe par la tête, Avenir va commencer par m'inviter à creuser un petit peu, c'est-à-dire en allant voir un petit peu la réalité sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de rêves en ce moment sur le monde agricole, on projette beaucoup beaucoup de choses qui correspondent pas forcément toujours à la réalité, c'est un milieu qui est quand même pas facile, même si on n'est pas dans le milieu agricole traditionnel, c'est pas un travail très, très facile. Et d'ailleurs, moi, je remarque un paradoxe, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des burn-out et des gens qui étaient vraiment pas bien dans leur travail, qui arrivent dans un changement, qui sont déjà fragilisés et qui finalement veulent choisir un métier où ça va être aussi très dur. Enfin, c'est un peu... Mais après, pour certains, ça prendra, pour d'autres, non. Et parfois, ça sera juste une étape vers autre chose. Et c'est plutôt, je pense que ça marque un retour vers un désir de plus d'authentique.
Alors, tu parles d'un métier très dur. Qu'est-ce qui est dur dans l'activité de paysan? C'est le temps de travail.
Temps de travail est assez important. Après, je pense que la densité du travail est peut-être par contre moins importante pour ce qui est travaux des champs, par exemple. Moi, je sais que je vais passer beaucoup plus facilement 8 heures dans le champ que 4 heures devant mon ordinateur. Enfin, en termes de charge mentale, c'est pas la même chose. Après, ce qui est difficile, c'est de tout combiner, parce que surtout, on est beaucoup dans des projets vente directe, on veut diversifier, faire de la transformation. Enfin, en gros, quand on arrive dans un projet comme ça, vu l'extérieur, on a envie de tout faire d'un coup. Enfin, moi, c'est vraiment mon cas, faire des plantes, faire les transformer, les vendre en direct, voilà, faire des formations, des animations, enfin... Donc voilà, déjà, il faut savoir faire la part des choses dans tout ça, savoir les combiner. Donc il ne faut surtout pas commencer en faisant tout. voilà, donc ça, c'est quand même un vrai travail de gestion, qui est quand même bien prenant aussi, sans parler de toute la comptabilité et tout ça, et la gestion d'entreprise. Et puis, surtout les premières années, il y a quand même tout ce qui tourne autour de l'installation, qui est particulièrement difficile, en fait. Les recherches de terre, les confrontations, pas forcément en opposition, mais se confronter aux réalités des institutions agricoles, faire toutes les démarches, c'est pas les démarches les plus évidentes qui soient, quoi. C'est un peu je pense que dans l'administration, l'agricole est assez haut placé pour sa complexité.
Très bien. Alors, donc, justement, hein, avec un petit peu ta sensibilité à venir, puis ta sensibilité pratique, hein, avec ton compagnon, comment est-ce que tu vois, d'une manière générale, la réalité du monde paysan, son évolution aussi, son devenir, qu'est-ce qui prédomine chez toi ? C'est l'optimisme ? C'est un questionnement permanent ?
Bah, c'est un peu les deux. Enfin, je dirais pas pour le monde agricole plutôt que le monde paysan. Moi, j'ai l'impression qu'on va dans deux directions en même temps, en fait. Qu'il y a d'un côté les très gros et l'agro-industrie qui ne fait que augmenter et qui est de pire en pire. Et de l'autre côté, il y a un retour... justement avec des petits projets, les consommateurs qui ont envie de retrouver le lien avec les agriculteurs, et inversement. Et donc ça, je trouve ça super positif, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans ce sens, pour peu qu'on ne mette pas trop de bâtons dans les roues. Je pense que ça ne peut être que... Je pense que on va vraiment évoluer dans le bon sens. Tout dépendra après, évidemment, des décisions en haut lieu, si vraiment ils sont décidés à laisser faire ça ou pas, quoi, mais... A priori, si la dynamique qui est en route continue, c'est plutôt positif, quoi. Mais après, c'est vrai que de l'autre côté, il y a quand même toute une part du monde agricole et agroalimentaire qui est bien loin de tout ça. Et ça, il faut pas se le cacher non plus, quoi. Et on n'est pas encore prêt de nourrir tout le monde en France avec la petite agriculture biologique ou paysanne, quoi.
Bien, je te remercie. Alors, une toute dernière question, peut-être très très pratico-pratique. Hein. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'activité que tu as avec ton compagnon? Tu parlais de vente directe, c'est du maraîchage, tu parlais de plantes aromatiques. Concrètement, vous faites quoi? Vous commercialisez quoi? C'est où? On peut vous trouver où? On peut vous soutenir comment? Enfin.
Alors nous, on a créé une petite structure qui s'appelle le panier de la Tournichette à Warny-le-Petit, donc c'est entre Valenciennes et Maubeuge, juste au milieu, c'est vraiment les portes de la Vénois. Donc on cultive surtout des légumes sur à peu près, pour l'instant on a 8000 m2, et dont une parcelle qui est à 10 km de chez nous, c'est pas très pratique, mais on a les serres tout près de la maison, ça c'est mieux. Donc on cultive, on a au moins une trentaine de légumes, hein, ça, de cultures plus classiques de conservation, carottes, pommes de terre, betteraves, jusque des cultures de serres comme tomates, poivrons, aubergines, voilà. On essaye d'avoir des variétés un peu diversifiées, parce qu'on vend, en fait, on fait donc de la vente directe, essentiellement sous forme de panier, même si pas seulement. On fait pas partie d'une AMAP, mais on a gardé un peu le système de panier qui nous permet d'optimiser au mieux l'écoulement de notre production. Comme on a une très petite surface, on peut pas trop se permettre d'avoir de pertes. Et du coup, on propose un panier toutes les semaines à 15€ ou à 20€, et puis les gens disent OK ou pas. Enfin, eux n'ont pas d'engagement. Et voilà, ils choisissent le panier. Après, s'ils veulent prendre quelque chose en plus, ils peuvent, et c'est payé en plus. Enfin, il y a une liste de légumes au détail aussi. En vrai, on remarque que 80% des gens au moins prennent le panier, quoi. Donc, voilà, ça leur permet de découvrir des légumes. Moi, je leur fais une petite newsletter toutes les semaines pour leur expliquer un peu la vie de la ferme, les légumes, comment les cuisiner, tout ça. Et on sent vraiment qu'ils ont envie de... Ils accrochent à ça, ils ont envie de redécouvrir, quoi.
Et tu parles de newsletter, il y a aussi un site internet ?
Il y a un blog, oui. Enfin bon, après, concrètement, il reprend la newsletter. Au début, il y avait d'autres choses, mais là, c'est rare qu'il y ait un nouveau.
Mais peut-être pour le signaler aux auditrices, aux auditeurs.
Oui, voilà. Ouais. Bah, on n'a pas encore réussi à le mettre sous un vrai nom de domaine. Donc, c'est tournichette.wordpress.com. Mais si on tape tournichette sur Google, on tombe forcément sur nous.
Très bien. Bah, merci, Karine. Voilà. Et puis, bonne continuation et bon courage.
Merci.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Radio associative, libre et sans pub. Nous terminons par de la musique libre et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
C'était
salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.